Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
7h08 et nous y sommes. Après le jardin et avant de retrouver tout à l'heure Christian Ricca pour la forme et la santé entre 8h et 9h et puis la vie numérique avec Raphaël Grabli entre 9 et 10. La suite de ce week-end des experts avec la maison. Christian Pessé, bonjour.
Eh bien, bonjour François, vous allez bien?
Écoutez, moi je respire, j'aère la maison. C'est... Je suis vos conseils.
Voilà, vous avez sûr. En plus, les conseils qui vont être donnés aujourd'hui sur la qualité de l'air intérieur, c'est une problématique qui, au-delà du phénomène actuel d'épidémie, est de plus en plus importante parce que nos maisons, en plus, sont de plus en plus étanches.
Et donc, comme elles sont étanches,
si on renouvelle pas l'air, on a des phénomènes d'humidité, des phénomènes de moisissure et des problèmes pathologiques. On pourrait en parler avec Christian Ricca, il nous le confirmera. D'ailleurs, j'ai organisé récemment un colloque sur le sujet, c'était au CSTB, au Centre Scientifique et Technique du bâtiment, et on a eu là un certain nombre d'experts qui sont intervenus, qui ont mis en valeur, en exergue, cette nécessité d'une bonne ventilation, qui, on va le voir, ça n'était pas très bien géré depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que la maison a beaucoup évolué, notamment dans le cadre des économies d'énergie, ça a beaucoup évolué, mais cette évolution, elle a été aussi dans le sens d'un peu plus de cocotte minute, comme je le dis.
Bien sûr. Après, il y a le parti pris de se dire, il faut aérer, donc c'est pas très politiquement correct. Le fait d'aérer et de faire dissiper toute la chaleur qu'on a accumulée dans la maison, c'est un peu bizarre, c'est un peu contradictoire. Mais malgré tout,
il y a des moyens.
Pour des raisons sanitaires, il faut le faire. Voilà.
Tout à fait.
On en parle tout à l'heure. Dans un instant, ça sera votre conseil, Christian. Pour se chauffer au bois, bien sûr, il faut bien sécher et stocker le bois pour l'hiver.
Oui.
Et puis surtout, quel bois utiliser? Ça sera dans une minute, mais à 7h10 sur RMC pour débuter ce week-end des experts maison. On attaque avec vos questions et c'est Yannick qui ouvre le bal. Bonjour Yannick. Oui.
Bonjour Yannick. Bonjour Monsieur Sorel.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir pris ma question. Donc voilà, ma question c'est, je suis en train d'acheter un appartement dans un projet immobilier neuf.
Oui.
Et nous sommes aperçus avec mon épouse que la distribution de l'électroménager, notamment le lave-linge, était dans la cuisine, avec le four, avec le lave-vaisselle. Et du coup, nous aimerions déplacer cette installation dans une des salles de bain. Il y a deux salles de bain dans l'appartement que nous sommes en train d'acheter. Alors à l'époque, quand nous avons contacté le promoteur, il nous a dit « Ah bah non, trop tard, la phase de mise hors air et hors eau du bâtiment étant déjà faite, il n'y a plus la possibilité de réaliser cette modification, sauf d'engager de gros frais de votre part. » Et on avait reçu d'ailleurs un petit catalogue avec les
tarifs.
Frais, les tarifs, voilà, si on voulait faire une nouvelle... une nouvelle disposition. Alors, on avait un peu laissé tomber. Là, nous sommes dans la phase de pré-livraison de cet appartement, normalement prévu là pour mars 2021, mais ce sera plutôt pour l'été prochain. Et la question nous revenait, est-ce que malgré tout, il n'est pas possible de faire réaliser cette modification d'aménagement par le promoteur avant la remise des clés? C'était surtout ça la question. Ou alors, est-ce que, si jamais ce n'est pas possible, est-ce que il nous est possible, avant de nous remettre les clés, nous, de faire intervenir un artisan pour réaliser ce nouvel aménagement?
Je veux dire non.
D'accord.
Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Une fois que vous avez les clés, vous faites ce que vous voulez dans votre appartement. Mais c'est la problématique des garanties. Hein. C'est-à-dire, là, vous êtes dans la garantie biennale, c'est-à-dire de parfait fonctionnement. Et c'est clair que si vous déplacez les choses, si vous faites une modification dans l'installation et qu'ensuite ça marche pas, eh ben, à ce moment-là, vous pouvez, mais vous ne pourrez pas faire appel à la garantie, puisqu'on va vous dire, attendez, nous, c'était prévu comme ça, ça ne marche pas, il y a un problème de refoulement, j'en sais rien, moi, avec vos matériels. Eh ben, à ce moment-là, vous ne pouvez pas venir demander la garantie, puisque vous êtes intervenu. C'est la même chose pour, et ça on n'y fait pas souvent attention, hein, mais c'est la même chose pour la garantie décennale, c'est-à-dire tout ce qui touche, en gros, globalement, aux grosses œuvres, à tout ce qui, comme on le dit, rendrait le bien hors de sa destination. C'est la définition, en gros, de la décennale. Bon, si vous faites un percement dans un mur, dans une cloison intérieure, qui touche donc à ce qui est couvert par la décennale, eh bien, si vous êtes intervenu avant la fin de la garantie décennale, eh bien, fatalement, le constructeur se retirera de sa garantie. Donc non, vous pouvez, oui, enfin, est-ce que d'ailleurs on vous a, en plus, dans le cas présent, on pourra dire qu'on vous a proposé de le faire, mais contre argent comptant, et ou pas content, parce que ça dépend, hein, évidemment, mais on peut, y a pas, vous pouvez pas faire ça, enfin. Faites-le, mais à ce moment-là, ne faites pas appel ensuite à la garantie de parfait fonctionnement.
D'accord, c'est-à-dire que là, en fait, donc avant, on peut pas le faire. Donc à la remise des clés en cet été,
faites ce que vous voulez.
Je veux réaliser cette modification au niveau
bien
de la plomberie.
Bien sûr.
Il vaut mieux que j'attende 2 ans, en fait.
Ah bah oui, parce que comme ça, sinon avant 2 ans, ben vous ne pourrez pas recourir à la garantie, parce qu'évidemment on dira bah c'est parce que vous avez fait la modification. C'est comme ça la vie.
Ok, d'accord.
Bon, voilà.
En tout cas, je vous remercie pour la réponse. Bah, je vais attendre, du coup, on prend notre linge avec la vaisselle.
Voilà. C'est pas dramatique, hein.
Vous le récupérez quand, votre appart, là, Yannick?
Bah, courant de cet été 2021. Normalement, initialement, c'était prévu premier trimestre 2021, mais avec tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, les retards, ça a été décalé à cet été, l'été 2021,
Bien sûr. Et alors, j'ajouterais, si vous mettez un appareil électroménager dans la salle de bain, faites attention, là, aux règles d'installation qui sont très strictes en matière de sécurité. Sécurité des personnes. Vous pouvez pas mettre une machine à laver qui collerait la douche ou la baignoire, par exemple. Là, c'est un autre sujet. Vous pouvez aller sur le site de Promotelec pour voir les conditions d'installation. Elles ont changé un peu, elles se sont un peu assouplies. Hein. Ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai un jour sur justement toutes les contraintes de sécurité liées à l'électricité.
Ah bah super. Bah écoutez, je vais aller regarder. Super. Voilà. Bah, je vous remercie infiniment.
Merci Yannick.
Bonne journée, bon week-end à vous.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Yannick nous a appelé au 3216 pour poser sa question maison. Faites de même, n'hésitez pas. 3216, l'appli RMC Direct Studio. On retrouve le conseil de Christian maintenant.
RMC, votre maison.
Attention, le conseil béton de Christian Pesset.
J'ai pris la bûche.
Le deuxième.
Ouais, c'est une bûche.
Et oui, et la bûche, ça fait mal. Hein.
Ça fait mal sur la tête ou sur les pieds. Sur les pieds, on en a souvent pris les uns les autres.
Mais bien sûr. Et puis vous bûchez tout le temps.
Bah, bien sûr, je suis un bûcheur, chacun le sait.
Alors, on va parler du chauffage bois.
Oui, alors le chauffage bois, et surtout on va parler du bois lui-même, c'est un excellent combustible pour se chauffer, mais il faut qu'il soit bien sec et de bonne qualité. Alors, ce sont des règles essentielles pour obtenir le rendement très élevé des poêles d'aujourd'hui.
Parce qu'une bûche humide, c'est pas bon.
Ah, bah, justement, on va y venir. Hein. Si vous achetez un bois normalisé qui est certifié NF Bois de Chauffage ou France Bois Bûche, vous êtes assuré de recevoir un bois dont le taux d'humidité est inférieur à 20%. C'est la catégorie H1. Il va ensuite vous rester à le stocker dans de bonnes conditions, mais un bon bois de chauffage, c'est entre 20 et 25% d'humidité maximum. Alors, si vous achetez du bois non certifié, ce qui est souvent le cas, notamment en milieu rural, on vous dira peut-être qu'il est bien sec, mais c'est pas forcément le cas. Alors, je vais vous donner un certain nombre de conseils, un certain nombre de trucs pour savoir si le bois est sec. Alors, première chose, un bois bien sec, il est plus léger qu'un bois humide. Là, ça se voit puisqu'il y a de l'eau dans la bûche. Donc, la bûche, il faut pas qu'elle soit trop dense, trop lourde. Ça doit présenter cette bûche, ça va présenter des fentes. Parce que lorsqu'il sèche, le bois fond.
Oui, bien sûr.
Donc, notamment en boue, vous devez avoir des fentes sur les bûches. Le bois, il doit être assez clair, parce que ça s'éclaircit au séchage. Mm-hmm. Un peu jaune, vous voyez, donc il doit être plus clair. L'écorce du bois d'une bûche bien sèche, eh bien l'écorce, clac, elle vient toute seule. Ça se détache. Si une écorce, par exemple, épaisse, ne se détache pas, c'est...
Ou alors
c'est...
si on a encore de la mousse verte dessus.
Alors voilà, de la mousse, des champignons, des moisissures, c'est fréquent. Là, vous pouvez être sûr que votre bûche, elle n'est pas sèche. Aussi un élément, le bois sec, pratiquement ça sent rien. C'est-à-dire si vous sentez la bûche et puis il y a une odeur de bois caractéristique, parce que quand ça sèche avec l'humidité qui s'en va, eh bien l'odeur s'en va également. Et puis quand vous entrechoquez deux bûches, ça doit sonner clair. C'est-à-dire que si ça y a un bruit un peu étouffé, eh bien là on peut imaginer que ça n'est pas sec. Alors de toute façon, pour le savoir aussi, il y a un petit appareil qui s'appelle le testeur d'humidité. Vous savez, c'est un appareil avec deux picots, avec deux pointes, et quand on les plante dans un mur ou dans le bois, eh bien on voit le taux d'humidité qui apparaît. Et je le disais tout à l'heure, eh bien c'est autour de 20-25. Il faut pas plus. Ça coûte une vingtaine d'euros un testeur. Simplement, il faut bien enfoncer les picots dans le bois, y compris dans une fente, par exemple.
C'est pas facile, ça, si.
Non, c'est pas toujours facile, mais la lecture est immédiate et vous voyez tout de suite si ça fait 25%, si ça fait 40%, hop, vous dites, il va falloir attendre qu'il sèche. Notez que si vous achetez du bois vert, alors bois vert, ça veut pas dire qu'il est de couleur verte, hein, mais qui est donc humide, sachez que qui vient d'être, par exemple, l'arbre a été coupé il y a quelques semaines, quelques mois, il va vous falloir 18 mois de séchage. Alors, on le fait sécher où? Eh bien, on le fait sécher à l'extérieur, le bois. Hein. On ne le fait pas sécher à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on l'empile, et puis on met, par exemple, une tôle dessus ou une bâche. La bâche, elle ne doit pas recouvrir l'ensemble, sinon ça va faire une étuve, mais elle doit être au-dessus. Et ça, c'est pas un problème s'il pleut. Le bois, il sèche quand même. Alors, on ne doit rentrer dans la maison et notamment dans la cave que si le bois est parfaitement sec. S'il n'est pas parfaitement sec, et surtout si la cave est humide, eh bien, ça ne séchera jamais. Hein. Alors, quels sont les inconvénients du bois qui n'est pas parfaitement sec? D'abord, il a du mal à s'allumer. Hein, il a du mal, la bûche a du mal à prendre. Ça dégage beaucoup de fumée blanche. Donc ça, c'est une caractéristique aussi. Ça chauffe mal, tout simplement. Et puis, ça encrasse.
Donc, on gaspille ce bois finalement.
Oui, bien sûr. Et puis, ça encrasse les vitres. Ça encrasse aussi. Alors ça, on le voit pas, mais ça encrasse le conduit. Mm-hmm. Ça dépose du calcin à l'intérieur, et ce calcin, c'est une forme de goudron. Et ça, ensuite, c'est catastrophique parce que ça peut faire des feux de cheminée. Et puis attention, une bûche qui brûle mal, eh bien, elle dégage du monoxyde de carbone. Et là, ça peut être une catastrophe.
C'est dangereux.
Parce que ça ne se sent pas. On reviendra aussi là-dessus. Alors, quel bois à retenir? Eh bien, essentiellement, moi, je dis toujours du bois de feuillu. Plus le bois de feuillu est dur, et mieux ça brûlera, plus ça sera efficace. C'est quoi? C'est du hêtre, c'est du frêne, c'est du charme. Évidemment, c'est du chêne. Attention, quand vous allez acheter du bois, le bois devrait aujourd'hui se vendre au mètre cube. Et on continue en tradition à le vendre au stère. Alors pourquoi c'est important de le savoir? C'est qu'un stère de bûche, par exemple, de 33 cm, les petites bûches qu'on met dans nos foyers, eh bien ça n'équivaut qu'à 0,7 mètre cube. Donc pourquoi pas, voyez un petit peu l'astuce, ça peut être de vous présenter l'un pour l'autre. Alors, quel prix? Quels sont les prix à peu près du bois aujourd'hui? J'irai que la règle, c'est entre, je parle de bûches de 33 encore une fois, c'est entre 80 et 110 euros le stère, puisqu'on continue à parler en stère.
Donc un peu plus que mètre cube, alors,
voilà,
en théorie.
Voilà. Et c'est souvent, alors beaucoup moins si on vous le livre en vrac. Mais faites attention. Moi j'ai vu ça une fois dans la maison que j'habitais il y a une dizaine d'années, j'ai commandé une livraison, oui, etc. Vous le livrez quand? Vous le livrez, mettons mardi, et puis quand je suis revenu avec ma voiture, il m'avait été livré en vrac, j'avais une montagne de bois devant ma porte, je ne pouvais même pas rentrer ma voiture. On s'y est mis, parce que ça prend un temps finalement,
bien sûr,
de rentrer ensuite, d'empiler correctement, mais c'est assez ubuesque. Heureusement, ce n'est pas l'inverse. La voiture n'était pas à l'intérieur, parce que là, j'aurais pas pu la sortir, là, j'ai pu la garer au bord de la route. Je rappelle, le bois est aujourd'hui le moins cher des combustibles. Ayez aussi des appareils flamme verte qui vous garantissent plus de 75% de rendement et ça élimine tous les problèmes aussi de particules dont on a pu parler il n'y a pas très longtemps dans cette émission.
Et comment font les professionnels pour sécher le bois en fait ? Ils le sèchent comment ?
Alors souvent ils le sèchent en
comme
forêt,
ça, à l'air libre.
À l'air libre. Et puis sinon il y a des étuves.
Il y a des étuves aussi, d'accord. 7h21, Christian, on accueille Lionel qui vient de nous appeler sur Direct Studio et on vient de composer son numéro. Bonjour Lionel.
Bonjour à tous, bonjour, merci Lionel. D'avoir pris ma question.
Bonjour. Vous en prie. Bienvenue Lionel, on vous écoute.
Merci. Eh bien, voilà, moi j'ai un appartement à Dunkerque, j'ai une infiltration sur le haut du plafond, du balcon, ça cloque, on voit qu'il y a des infiltrations d'eau, et en fait, on s'est tourné vers les différentes assurances, propriétaires, colocataires et locataires. Et tout le monde nous renvoie dans nos buts en nous disant que c'est pas à eux de prendre en compte ce type de dégâts. Et là, on ne sait pas comment faire. L'appartement est de 76 et on ne sait pas qui solliciter pour se saisir de ce dossier.
Alors attendez, vous avez une infiltration dans la maison, parce que vous m'avez parlé d'un dessous de balcon. Alors c'est dans la maison ou c'est sous le balcon ?
Sur le haut du balcon de l'appartement.
Et donc, au-dessus, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un autre balcon ou vous avez une terrasse ?
Au-dessus, c'est le locataire du dessus, quoi.
Oui. Alors, vous avez fait une déclaration de dégâts des eaux ?
Oui. Et l'assurance nous dit que c'est pas à eux de s'en occuper, que c'est à l'assurance de la copropriété.
Ah, alors ça, on se repasse la patate chaude. Alors, c'est la copropriété si c'est une partie commune. Donc, si ça n'est pas une partie commune, votre histoire, votre assurance vous raconte des histoires. Hein, pourquoi ? Parce que c'est pour ça que je vous ai posé la question, si vous étiez au-dessus avec un autre balcon ou si vous étiez avec un toit-terrasse. Si vous êtes avec un toit-terrasse, effectivement, c'est la collectivité. C'est-à-dire, c'est la copropriété. Mais si vous êtes donc avec un autre balcon au-dessus et qu'il y a une infiltration, là, c'est votre assurance. Alors après, votre assurance, si elle traîne des pieds, de toute façon, n'allez pas discuter avec quelqu'un d'autre. Vous êtes couvert par une assurance.
Il faut insister.
Le problème, souvent, c'est qu'on met 36 interlocuteurs sur le problème. Et le risque, c'est quoi ? C'est que chacun, comme ça, se renvoie la balle. Donc, la problématique, elle est simple, c'est votre assurance. Si ça ne marche pas, il y a un médiateur de votre assurance, je le dis souvent, et qui, en général, arrange les choses. Et si ça ne va pas, il y a encore un médiateur des assurances, des assureurs. Et il ne faut pas hésiter. Et là, vous avez à Paris le bureau de tarification centrale des assurances. Et si le médiateur n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord, eh bien, c'est...
Il y a des fonds, à ce moment-là ? Il n'y a pas des fonds ?
Non, il n'y a pas de fonds particulier, parce que le fonds, ça serait pour une défaillance de l'assurance. C'est ça. Donc là, il n'y a pas de défaillance de l'assurance. Et puis, si ça ne marche toujours pas, vous avez les tribunaux, tout bêtement, il n'y a pas d'autre solution. Mais encore une fois, ne vous laissez pas embarquer dans les interlocuteurs multiples. Souvent, des gens vont chercher aussi le constructeur, ils vont chercher quelqu'un qui est intervenu entre deux.
Là, c'est l'assurance.
Votre assurance, point barre.
Christian, merci en tout cas Lionel pour votre appel. 7h25, la météo, et on revient et on va évoquer la qualité de l'air intérieur. Bien respirer dans les logements, c'est capital. On va vous expliquer pourquoi et comment dans un instant. À tout de suite.
RMC, je ventile.
Jusqu'à 8h.
Moi, il manque un peu d'air, votre salle de bain.
Moi, déjà, je ne me serais jamais mis dans une pièce sans fenêtre.
Votre maison.
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi.
François Sorel.
La fenêtre, putain, on étouffe là-dedans.
Le temps presse. Sur ta couche, il y a une fenêtre. Vas-y, ouvre-la.
Allez. Respire, respire. Tu risques plus rien.
Christian PC. Une
fenêtre ouverte. Eh oui, c'est une solution.
Alors, c'est ça le paradoxe, c'est que on va le dire et on le répète durant cette émission, il faut aérer son logement, c'est capital. Mais c'est vrai qu'avec les températures qui baissent, c'est
il y a un moment où
on se dit c'est pas logique, quoi. On chauffe la maison, mais malgré tout, il faut ouvrir.
Exactement. Il y a un moment où ça devient difficile, et puis de toute façon,
pourtant il faut le faire.
Et pourtant il faut le faire. Bon, alors plus les logements sont récents, plus ils sont étanches, et plus ils sont étanches, plus la ventilation est importante.
Eh oui.
Alors on va voir ce matin deux invités. invité, Pierre Cruveillé, qui est directeur des affaires publiques chez Aldès, qui est le grand spécialiste français de la ventilation et du renouvellement de l'air, de la ventilation dans les logements. Et puis on aura Claude Bossec, qui est administrateur du CINASAV. Le CINASAV, j'en parle souvent, c'est une structure syndicale extrêmement importante des personnels de maintenance du chauffage et des équipements de la ventilation. Donc c'est une structure indépendante qui regroupe les professionnels justement de cette maintenance. Et donc on va lui demander ensuite un certain nombre de conseils sur l'entretien lui-même des ventilations. On va commencer avec Pierre Cruveillé. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà, alors on va vous êtes un spécialiste des systèmes de ventilation. Alors je commencerai tout bêtement, on a parlé évidemment de l'ouverture des fenêtres, ça c'est la façon la plus simple peut-être pour ventiler sa maison. On sait que l'impact d'un manque de ventilation, je le disais, est important sur la qualité du bâti et sur la santé de ses occupants. C'est quoi globalement les risques de mauvaise ventilation du logement? Qu'est-ce qui est constaté?
Alors, surtout en période de confinement que nous vivons, les occupants de logements vont évidemment encore être davantage présents chez eux qu'habituellement. Et donc, les émissions de polluants de l'air intérieur vont être plus importantes. Et donc, ça va être d'autant plus nécessaire d'avoir un bon système de ventilation qui fonctionne bien pour renouveler l'air de manière suffisante. Ouais. Sinon, comme vous l'avez dit, ça va avoir un impact négatif sur la qualité de vie des personnes du logement, mais aussi sur l'habitation en elle-même.
Alors on dit souvent, je m'excuse, je vous interromps, on dit souvent que l'air intérieur est 5 fois, 10 fois, on dit parfois 10 fois plus pollué que l'extérieur, c'est vrai?
Alors en fait, oui, dans un certain nombre de cas, c'est évidemment possible parce que aux polluants de l'air intérieur qui sont émis par un certain nombre d'éléments.
Les COV, c'est ça.
Voilà, les COV, l'humidité des personnes qui habitent dans le logement peut venir s'ajouter aussi une pollution qui viendra de l'extérieur.
D'accord. Alors, la réglementation sur le renouvellement de l'air, elle existe, elle mérite d'exister, mais je voyais qu'elle date de 1983. Est-ce que c'est pas complètement obsolète? C'est quoi les règles de renouvellement?
Alors, effectivement, pour le logement, c'est un arrêté de 82 et de 83 qui définissent les exigences de renouvellement d'air. Alors, pour la cuisine, alors c'est un petit peu compliqué, mais pour faire de manière schématique, pour la cuisine, en fonction du nombre de pièces de logement, c'est un débit entre 20 et 45 mètres cubeurs en grande vitesse et 75-135 mètres cubeurs en grande vitesse.
Ouais, alors ça, ce sont des chiffres théoriques, on peut jamais contrôler ça. Qui peut contrôler ça?
Alors, jusqu'à maintenant, on ne contrôlait pas vraiment cela, mais on peut se réjouir du fait que dans la future réglementation, dans le neuf, il y aura un contrôle systématique qui sera fait pour les systèmes de ventilation, et donc les débits en particulier. D'accord. Seront contrôlés.
Ça va devenir plus sérieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler globalement les moyens de renouvellement de l'air d'une maison neuve ou plus ancienne d'ailleurs?
Alors, les systèmes de ventilation, ils ont évidemment évolué au fil du temps, avec les exigences de la réglementation notamment. On a d'abord beaucoup travaillé avec la ventilation naturelle par tirage thermique. Mais aujourd'hui, c'est une solution qu'on n'utilise plus beaucoup dans le neuf parce qu'on n'est pas capable de garantir des niveaux de débit. Et puis ensuite, on a beaucoup utilisé et on continue à l'utiliser beaucoup la ventilation simple flux,
C'est une ventilation mécanique, c'est-à-dire qu'on a une centrale qui aspire l'air du logement, c'est ça?
Voilà, en fait, on a des orifices généralement qui sont positionnés au-dessus des menuiseries, dans les pièces de vie, donc chambre et séjour, où l'air va rentrer et on va extraire l'air vicié des pièces humides vers l'extérieur en un seul point.
Mais alors là, on fait rentrer du froid aussi?
Alors, oui, on fait rentrer du froid, mais dans la ventilation simple flux, on a la ventilation simple flux hygro-réglable qui, elle, va ajuster les débits en fonction du niveau d'hygrométrie dans
le logement. C'est-à-dire d'humidité.
Voilà, exactement, d'humidité dans le logement. Et donc, plus l'humidité sera importante, plus le débit sera important. Mais moins l'humidité sera importante, plus le débit sera petit. D'accord. Et donc, ça permet de vraiment optimiser les pertes thermiques.
Mais alors, la VMC, double flux. Là, c'est un système qui un peu plus en vase clos, puisqu'on puise en toiture l'air frais et on évacue l'air chaud. Et ça marche en échangeur? Comment ça fonctionne?
Alors, la VMC double flux, elle a un gros avantage, elle a plusieurs avantages, mais l'un des premiers avantages, c'est qu'elle peut filtrer l'air entrant.
Ah oui. Donc quand vous en êtes ce moment, dans une... c'est important donc.
Oui, tout à fait. Et quand vous êtes dans une zone particulièrement polluée, notamment aux particules fines, c'est très intéressant d'avoir cette filtration.
D'accord.
Et puis, comme vous l'avez dit, avec un échangeur, on peut récupérer les calories et les frigories de l'air qui est extrait. Est-ce que ça va venir réduire d'autant les besoins de chauffage et de rafraîchissement du logement?
D'accord.
Donc, et puis ça permet aussi de mieux maîtriser l'apport d'air frais, en particulier dans les chambres.
Alors, il y a quand même un sujet qui préoccupe beaucoup de gens qui sont notamment dans les maisons qui ont été construites depuis les années 60, c'est le bruit des VMC. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le bruit d'une VMC quand on a un plafond, qui est souvent un plafond feuille de cigarette, en plaque de plâtre, avec dessus une vingtaine, espérons-le, une trentaine de centimètres de laine minérale ou végétale? Parce que c'est une nuisance pour beaucoup de gens.
Alors, je dirais qu'il faut d'abord commencer par acheter un produit de qualité, hein, qui réponde à des normes strictes, hein, qui sont estampillées marque NF.
Oui, comme d'habitude.
Voilà. Et puis ensuite, il faut s'assurer que les produits soient installés selon les règles de l'art. Hein, et puis, il faut vérifier que c'est bien le cas.
D'accord. Mais si c'est pas le cas, Pierre, alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, si c'est pas le cas, je pense que Claude Bossec en parlera un petit peu tout à l'heure aussi, mais il faut faire entretenir régulièrement son système de ventilation. D'accord. De manière à évidemment pallier à tous les petits dysfonctionnements qui au cours du temps, ouais, peuvent subvenir.
Mais il n'y a pas souvent aussi des problèmes d'installation où on a un groupe qui touche par exemple la charpente ou qui touche une pièce de structure du plafond et que ça renvoie du bois partout, ça renvoie du bruit partout.
Alors oui, alors là vous renvoyez au problème d'installation, donc c'est pour ça que c'est très important que l'on ait des installateurs compétents qui effectivement mettent en œuvre le système de ventilation. Et puis après, quand les choses ont été peut-être mal faites au départ, il y a toujours aussi quelques solutions comme des pièges à son ou des équilibrages qui peuvent être faits.
Alors vous savez, on me pose souvent la question aussi, mais pour certains parce que justement ils sont gênés la nuit, pour d'autres parce qu'ils pensent que par exemple l'été c'est pas la peine de la faire fonctionner. Est-ce qu'on peut arrêter sa VMC? On me demande souvent parce qu'on me dit ouais, mais ça doit consommer beaucoup d'électricité. Est-ce que c'est utile de laisser marcher toujours sa VMC?
Alors, il est prévu que la VMC fonctionne en continu, hein, donc il n'est pas prévu de l'arrêter. D'ailleurs, c'est ce que demande la réglementation. Et cela pour une raison essentielle, c'est qu'il faut évacuer continuellement les polluants qui sont émis en permanence dans le logement. Donc, il faut surtout laisser la ventilation fonctionner en permanence.
Corinne, sur Direct Studio, nous pose cette question. Messieurs, je suis locataire. À qui incombe le nettoyage de la VMC? Locataire ou propriétaire, et à quelle fréquence?
Alors ça, on va poser la question à Claude Bossec du CINASAV. Bonjour, monsieur Bossec.
Bonjour, Claude. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, pour répondre à Corinne, l'entretien est à la charge de l'occupant. Hein. Donc, à part les charges liées au remplacement de pièces qui sont au propriétaire,
l'entretien... C'est le locataire, donc.
C'est le locataire.
Dans ce cas précis.
C'est
hein.
Le locataire.
C'est quoi les principaux points d'entretien d'une VMC, d'une simple flux, d'une double flux, par exemple?
Alors, pour une simple flux, c'est l'entretien annuel qui est maintenant obligatoire dans le collectif. Hein.
Oui.
Dans le collectif, depuis 86, pardon, elle est obligatoire. En revanche, maintenant, si on fait un descriptif du nettoyage, c'est nettoyer la VMC, c'est une turbine, nettoyer toutes les bouches liées sur les huisseries, sur les bouches dans les pièces humides, et puis forcément de pulvériser un produit qui permettrait d'enlever toutes les bactéries. Et ça, c'est fait une fois par an. Et on vérifie, ça c'est pour répondre un petit peu à la question tout à l'heure,
oui.
On vérifie les débits lorsqu'on fait l'entretien. Ça, c'est important.
Donc ça veut dire que c'est un entretien qui doit être fait par un professionnel.
Absolument. Je doute fort aujourd'hui qu'on puisse laisser ça à la main d'une population qui ne connaît pas et qui ne maîtrise pas les enjeux.
Messieurs, on revient dans un instant. On va marquer une petite pause. Claude Bossec qui est toujours avec nous, Pierre Cruveilly aussi. Et nous aurons Florent. Florent qui veut témoigner. Il a acheté un appareil qui permet, vous savez, de purifier et désinfecter l'air de la maison. Il a l'impression que c'est efficace. Il va nous raconter comment ça fonctionne. Et puis, bien sûr, à tout moment, vous pouvez nous joindre 3216, la PRMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Nous sommes de retour le week-end des experts, la maison avec Christian Pessé. On parle de la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'air que l'on respire quand on est à la maison. Important évidemment de la renouveler avec les VMC en ouvrant les fenêtres. On l'a peut-être pas dit assez, hein, Christian, mais ouvrir les fenêtres.
Ça reste la base. On peut sans problème.
C'est quoi les bons gestes à avoir le matin au réveil? On ouvre les fenêtres.
Oui, c'est bien. Enfin, au réveil, ça réveille. Remarquez l'air frais. Mais évidemment, on va. Eh bien, alors là, il faut couper le chauffage aussi dans la pièce, parce que sinon, ça.
Bien sûr.
Rien. Alors, il y a des radiateurs électriques, notamment intelligents, qui se coupent automatiquement quand on ouvre une fenêtre.
Oui, parce qu'ils sentent que justement, il y a une baisse de température. Dans un instant, nous retrouverons le témoignage de Florent, mais nous sommes toujours avec nos invités Pierre Cruveillé et Claude Bossec. Christian.
Oui, Claude Bossec. On parle donc de sur les doubles flux. On va s'occuper des filtres aussi, j'imagine. Mais moi, il y a quelque chose qui me préoccupe toujours, c'est le nettoyage, j'allais dire presque le ramonage des gaines. Ça se fait parce que moi, j'ai l'impression que personne ne fait ça.
Oui, alors en général, tous les 10 ans, hein, il est prévu tous les 10 ans de le faire d'une façon importante. Hein. Maintenant, on regarde l'étanchéité de ces gaines. C'est des choses importantes qui sont reliées à l'efficacité de la VMC. Et ça, encore une fois, un professionnel a l'œil avisé et permet de vérifier mais ça alors, d'une façon continue.
Mais alors, c'est quel professionnel? Parce que là, les gens sont particulièrement démunis. Ils savent pour ramener une cheminée qu'il faut un ramoneur. Mais là, il faut qui? Il faut quoi?
Alors, nous, au SINASA, forcément, hein, tous nos adhérents sont liés à une formation sur les problématiques sur la QAI, hein, la qualité d'air intérieur. Et forcément, la ventilation en fait partie. Et nous sommes tous les adhérents en formation continue sur les sujets liés à l'entretien. Et nous avons des référentiels qui nous permettent d'avoir nos techniciens toujours au top et qui permet aujourd'hui de bien communiquer aussi avec les clients, les interventions que nous réalisons. L'information est importante. Oui. J'avais juste une petite précision. La consommation est de 263 kWh par an, lorsqu'on parlait de la laisser.
La consommation. Donc c'est rien, c'est quoi? C'est une ampoule électrique.
C'est 40 euros par. C'est environ 40 euros par.
Le
ne mettons pas en péril d'arrêter une ventilation pour 40 euros par an. C'est ridicule.
C'est clair.
C'est ridicule.
D'accord. Je rappellerai, j'ai organisé un colloque il n'y a pas très longtemps là-dessus, dans le cadre de Réno Info Maison,
votre site,
monsite.com, et puis donc aussi un dispositif sur Facebook. Vous manquez de personnel, d'après ce que j'ai compris. Vous avez du mal à recruter. Alors, faut le dire aux jeunes. Ce sont les métiers de maintenance qui sont extrêmement pointus aujourd'hui. Et je pense qu'on peut faire appel à dire que il y a du boulot.
C'est même cruel parce que il nous manque à peu près. On recrute à peu près 1000 personnes par an au SINASAV, hein, dans nos filières. Et forcément, hein, la digitalisation de nos métiers apporte une certaine attractivité. Il est vrai que maintenant, les capteurs dans les logements, tout ça, c'est quelque chose qui rend plus sexy nos métiers. Hein.
Voilà, ce sont des métiers techniques extrêmement, et puis pas mal payés, je crois. Hein, donc, il faut un peu y aller là-dessus. Pierre Cruveillé, ça coûte combien d'installer une VMC? Est-ce que c'est toujours possible dans l'ancien? Pas forcément. Mais c'est quoi le coût moyen de l'installation d'une VMC?
Alors, ça dépend un petit peu de quel modèle.
Oui, et de l'âge du capitaine également, mais...
Une ventilation simple flux, c'est en gros autour de 700-800 euros fournis posés.
Oui.
La ventilation double flux qui fournit des avantages dont on a parlé un peu tout à l'heure supplémentaires, c'est un peu plus cher, hein. C'est plutôt autour de 5 000-6 000 euros.
Oui, là on passe vraiment un cran important. Oui. On parle aussi de ventilation en surpression, mais ça c'est peut-être un peu plus aléatoire, non?
Alors Oui, alors la ventilation par surpression, c'est une technique qui est surtout utilisée en rénovation. Mais comme vous le dites, ça peut occasionner des problèmes de sous-ventilation, notamment dans les pièces humides. Donc, d'ailleurs, c'est pas possible de l'utiliser en construction neuve sur tout le territoire français. Mais voilà, juste pour répondre à votre question sur l'installation des systèmes de ventilation dans l'ancien, en fait, on a deux cas de figure. Soit on est en rénovation lourde et là c'est tout à fait pertinent d'installer une ventilation double flux, hein, avec les atouts qu'on a évoqués tout à l'heure, parce que là on peut facilement passer les gaines. Si la rénovation est plus légère, on peut mettre du simple flux, notamment hydro-réglable, qui est assez aisé à installer.
D'accord. Merci beaucoup, Pierre.
Merci Pierre Crevillé. Merci Claude Bessec, donc du CINASAV. Pierre Crevillé était de Maison Aldès.
Voilà, et nous avons Florent qui veut nous parler justement d'air purifié à la maison. Bonjour Florent.
Oui, bonjour François, bonjour Christian.
Bonjour
aux invités et aux auditeurs de RMC.
Alors, racontez-nous.
Oui, en vous entendant ce matin expliquer sur l'air intérieur, je suis très attaché aussi à l'air intérieur, donc j'aère beaucoup. En fait, je me suis muni d'un purificateur d'air qui permet de traiter, de purifier l'air.
Oui.
C'est une prévention en plus. Je l'ai depuis pas très très longtemps, depuis un mois et demi. Mais par exemple, je vois que j'ai quand même moins d'odeur dans la maison. Alors, j'ai une maison qui a à peu près...
C'est le filtre à charbon, hein, ça, qui élimine les odeurs. Il ne rend pas l'air plus sain.
Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, il filtre les particules fines jusqu'à 0,3 microns. En fait, il y a 5 filtres à l'intérieur qui sont tout en un. Oui. Et chaque filtre, en fait, a sa propre fonction. Et il y a aussi une lampe à UV permet en fait de d'éliminer un maximum de.
Mais alors, si vous voulez, moi je vais vous dire, on en a parlé il y a quelques mois de cela. Il faut des matériels de très haute qualité parce qu'en fin de compte, ces matériels ils sont pour les meilleurs dérivés des systèmes hospitaliers où là on a des pièces qui sont stériles, qui sont complètement traitées. Dans les petits matériels qu'on a chez soi, il faut faire attention que le débit est souvent si faible que de toute façon, en plus l'appareil mesure la qualité de l'air au-dessus de lui-même.
Au-dessus de son appareil, donc
effectivement,
forcément,
s'il filtre, s'il traite avec, vous le disiez, des UV, fatalement, il améliore la qualité de l'air. Mais il y a aussi des matériels qui permettent de mesurer la qualité de l'air intérieur dans l'ensemble du logement ou dans d'autres endroits. Donc il faut faire attention à ces petits matériels qui ne dispensent pas de toute façon de la ventilation. Parce que c'est pas parce qu'on ne peut pas traiter constamment de l'air en vase clos. Donc très bien, mais attention, matériel de qualité. Donc qui dit matériel de qualité, dit matériel très cher. Le traitement de sanitaire de l'air intérieur coûte très cher. Donc ça ne dispense pas, si vous voulez, bien sûr, oui, je suis tout à fait favorable, mais ça ne dispense pas d'ouvrir sa fenêtre et ça ne dispense pas d'avoir un bon système de ventilation mécanique contrôlée.
Juste une question, en cette période d'épidémie, alors que le virus est au cœur de nos préoccupations, est-ce que en ouvrant les fenêtres régulièrement, en faisant circuler l'air, on peut faire évacuer
bien sûr, parce que
ce virus? Alors je sais même pas si on peut en avoir comme ça dans l'air.
D'abord, il y a la possibilité d'entretien des VMC, mais même aussi des clims, hein, qu'il faut mettre dans l'eau, puisque les clims servent aussi à traiter l'air en même temps qu'elles le réchauffent ou qu'elles le rafraîchissent. Il y a des moyens de désinfection, et il y a des antiviraux qui peuvent être aussi appliqués sur les filtres. Donc ça, ce sont des affaires de professionnels, parce qu'on en trouve en bombe, mais attendez, on ne sait pas le faire, nous. Hein. C'est du sérieux. Et de toute façon, la propagation du virus, alors je veux dire, d'ailleurs, dont on ne sait pas grand-chose, hein, on entend à longueur de temps, eh bien, elle sera tout le temps moins probable qu'on aura renouvelé l'air et qu'on aura fait rentrer de l'air de l'extérieur, qu'on ne sera pas en milieu confiné, même si le confinement, par ailleurs, est une obligation.
Donc, plus que jamais, aérons tous les jours la maison, 3-4 minutes, 5 minutes?
Ah, moi je laisse ouvert une demi-heure.
D'accord.
Donc, je pense que c'est à peu près. Et puis, créer aussi des courants d'air, c'est pas le truc.
Oui, comme ça.
Ouais.
Et oui, comme ça, l'air circule dans toute la maison.
Mais c'est vrai que ce qu'on a vu ce matin, c'est que les moyens mécaniques on dit bien contrôler. Ça contrôle des débits. Quand on ouvre une fenêtre, une fois qu'elle est fermée, il n'y a plus forcément de renouvellement. Comme on le disait, c'est-à-dire que ces fenêtres, elles sont de plus en plus étanches. Je m'amusais en prenant mon ascenseur chez moi dans un immeuble parisien de voir la toute petite bouche qui est sur le palier au-dessus de la porte. C'était ça la ventilation autrefois. Mais comme les fenêtres n'étaient pas étanches du tout, il y avait une forme. Et vous aviez toujours quand même une ventilation dans la cuisine, mais qui malheureusement a souvent été utilisée pour raccorder ensuite la hotte. Qui donc elle a une autre fonction. La hotte est aussi très importante.
Et bien voilà, on a terminé. Merci Christian. On se retrouve la semaine prochaine.
C'est pas mon coup de cœur alors.
Si vous voulez, alors 30 secondes.
Allez, en 30 secondes.
Parlez-nous de ce projet immobilier à New York.
Un gratte-ciel à New York qui est proposé par le cabinet d'architecture Rescubica Studio. C'est Bernard Paterlini qui est l'architecte. C'est un projet de tour en bois, la plus grande tour du monde pour New York, 737 mètres, 160 étages. L'immeuble sera complètement en bois. C'est un énorme puits de carbone. 36 éoliennes, 7000 mètres carrés de façade.
Le look est étonnant, quand même.
Un puits climatique et des aménagements végétaux. 8300 arbres, 1600 arbres, 24500 mètres carrés de murs végétaux. Et c'est un projet qui mixe à la fois l'habitation et le télétravail. Dans chaque appartement, il y a une pièce prévue pour le télétravail. C'est la tour Mandragore qui devrait voir le jour sur l'île Roosevelt, vous savez, c'est entre Manhattan et Queens, sur East River. Donc, je trouve que c'est...
Alors, c'est qu'un projet pour l'instant.
C'est un projet, c'est un peu un rêve. Une esthétique, effectivement, mais très, très originale, on peut dire.
Oui, enfin, ça ressemble un peu à rien, j'avais envie de dire. Après, c'est une question de goût.
Voilà, c'est nouveau.
Christian Pessé, merci. Parce que je dis que ça ressemble à rien, mais c'est pas vous qui avez dessiné la tour.
Non.
Après, il faudra pas que je vexe cette question.
Mais vous ne me vexerez jamais.
Et comme d'habitude, c'était une émission très importante, car il faut aérer ses appartements. Les principales contaminations se font dans les familles. Donc, Christian Pessé est encore une fois au cœur d'une émission capitale à pérenniser encore des décennies.
On revient dans un instant, Christian Recchia. Pour la forme et la santé, il est en pleine forme, Christian. Il a bien respiré de l'air frais. Et on le retrouve dans quelques instants après la météo et les infos de 8h. À tout de suite.